Bonjour et bienvenue sur Radio LLM, la radio du lycée Louis Massignon d'Abu Dhabi. Voici un nouveau numéro de notre émission d'actualité Actu Express. Un rendez-vous régulier pour parler de tout, une émission pour comprendre, pour réfléchir et bien d'autres choses encore. Nous avons donc l'immense plaisir d'accueillir Florence Obona qui est venue au lycée à l'occasion de la semaine de la presse et des médias. Occasion pour nous, avec notre invité, d'aborder la question sociale, notamment en France, question réactivée avec le récent mouvement des Gilets jaunes. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à ceux qui travaillent, tous les jours, mais qui, au lieu de vivre normalement, survivent à peine. Alors vivre ou survivre en France, pour certains Français, question que l'on peut se poser. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Obona.
Merci à vous, bonjour à tout le monde.
En faisant quelques recherches sur vous, nous avons découvert que vous êtes une journaliste de renommée internationale. En tant que grand reporter, vous avez couvert des événements importants, souvent dramatiques, au Rwanda, au Kosovo, en Irak. Mais aussi de grands procès en France, comme l'affaire d'Outreau. Or, en 2009, vous décidez de prendre un congé sans solde, donc sans salaire, de 6 mois, pour mener une enquête sur les travailleurs précaires en France, des personnes qui travaillent mais qui, au lieu de vivre, survivent plutôt, du fait de leur précarité, de leur manque de formation, de leurs petits revenus. Vous devenez donc à votre tour travailleuse précaire à Ouistreham, une petite ville de Normandie. Pourquoi ce projet qui semble surprenant ?
C'est un projet qui est à la fois surprenant et très classique dans la presse. C'est-à-dire que c'est une méthode d'investigation, une technique d'enquête en réalité, qui est, j'allais pas dire vieille comme le journalisme, mais il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple relativement récent, un Allemand, Günther Wallraff, avait fait la même chose en Allemagne dans les années 80 et s'était fait passer, c'est-à-dire que c'était grimé en travailleur turc, donc bien pire que ce que j'ai fait, c'est-à-dire que c'était noir, enfin foncé la peau, il avait mis des lentilles de contact, il avait les yeux bleus, il voulait les avoir marron, et donc pour voir quel était le quotidien d'un travailleur turc émigré en Allemagne dans les années 80. Donc la technique est éprouvée, si j'ose dire. L'idée était que la fin des années 2008, 2009, 2010, c'était les années de crise en France. C'est-à-dire la crise des subprimes n'est pas si loin. On se demande comment elle va rebondir en France. Et moi, je ne suis pas une commentatrice financière. Je ne fais pas d'enquête pour savoir de quelle manière Madoff a escroqué un tel ou un tel. Je suis un journaliste de terrain. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est quel est l'impact de la crise sur les individus, les individus et ceux qui sont parmi eux les plus fragiles. Et donc l'idée de base était, je vais m'inscrire au chômage en me présentant comme ce que je suis, une femme de plus de 50 ans, mais en gommant toute ma vie professionnelle, en disant je ne suis non pas journaliste, mais voilà, je n'ai jamais travaillé, mon mari m'entretenait et maintenant je cherche du boulot, qu'est-ce qu'on peut me proposer ? Et on se met dans la situation des plus vulnérables des Français. Donc c'est cette quête que je voulais raconter, c'est-à-dire comment la crise prend de plein fouet les gens qui ont le moins les défenses pour y résister, en fait.
Pourquoi cette ville et cette région, la Normandie ?
Alors la ville et la région, en fait, je l'ai choisie par défaut. Alors la raison que je vais vous donner, ils la détestent là-bas. C'est-à-dire que je dis souvent, c'est valable, quand ? Alors, Ouistreham est le port de Caen, en fait. Hein. Donc Caen est une grande ville. Et l'endroit où elle rejoint la mer, c'est Ouistreham. C'est le port de Caen s'appelle Ouistreham. Et c'est un petit village qui est distant de quelques kilomètres, mais qui n'est pas qui est dans la communauté urbaine, disons. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc l'idée était de prendre une ville française, c'est là où Caen n'aime pas du tout ce que je vais dire, une ville banale, voilà, pas trop grande, pas trop petite, sans problème particulier, c'est-à-dire que si on prend Paris, on dit oui, mais Paris c'est spécial, si on prend Marseille, on va vous dire la même chose, le Nord également. Donc la Normandie, voilà, c'est la France de tous les jours, la France quotidienne, la France telle qu'elle est. Et ça c'était la première raison. La seconde raison, c'est que je n'y connaissais absolument personne. Donc je n'avais pas de chance, l'idée était évidemment d'être anonyme. Je n'avais aucune chance de rencontrer quelqu'un que je connais dans la rue. Et donc, c'était les deux raisons principales, en fait.
Comment vous avez fait pour décrocher un emploi ?
Eh ben, j'en ai bavé. Alors, c'était évidemment la surprise cruelle. C'est que, voilà, vous arrivez, la personne de Pôle emploi, c'est-à-dire l'agence qui donne de l'emploi en France, enfin l'agence, l'institution, vous lui dites, voilà, je suis une femme, j'ai juste un baccalauréat, pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle, et je suis prête à tout faire. Et là, vous avez quelqu'un qui, d'un air lassé, vous dit « mais tout le monde est prêt à tout faire ». Là, vous voyez que vous allez avoir des problèmes. Et en fait, on a l'impression que voilà, vous êtes prêt à faire les derniers des boulots, mais même pour le dernier des boulots, on vous dit « vous n'êtes pas compétente ». Donc j'ai postulé à tenir la caisse des supermarchés, garder des cochons d'Inde dans une animalerie, tout ça. Et à chaque fois, on me disait « non, mais pour ça, il faut des diplômes, vous n'êtes pas du tout... C'est bien trop haut pour vous ». Et finalement, ce qu'on m'a proposé était femme de ménage sur un ferry boat.
Donc pendant que... vous avez fait quoi comme travail dans les ferries ?
Dans les ferries, c'est un bateau qui traverse la Manche, la mer, entre la France et l'Angleterre. Et donc ce ferry accoste à Ouistreham, donc le port de Caen. Et entre le moment où les passagers descendent, ceux arrivant en Angleterre, et ceux qui partent vont monter, il y a environ 1h30, 2h de battement. Et pendant ce temps-là, toute une escouade de femmes de ménage, dont je fais partie, nettoie le bateau de fond en comble pour le remettre en état, disons. Et donc c'est ce métier-là que j'ai fait, principalement. Il y en a eu d'autres, mais le principal était celui-là.
Et quel est le bilan que vous tirez de cette expérience ?
Le bilan, il y en a beaucoup. C'est vrai que, effectivement, si vous me dites, est-ce que j'ai été surprise de voir que les femmes de ménage étaient en conditions précaires en France ? Je vous dirais non. Mais comment elles l'étaient ? Oui, ça, j'ai été surprise. C'est-à-dire que les mécanismes de paupérisation d'une catégorie de personnes, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas comme ça. Et pour moi, ça a été un vrai choc. C'est-à-dire que je m'étais fixée pour cette expérience de dire, voilà, je quitterai ce boulot quand on me proposera un CDI. Un CDI, c'est un contrat à durée déterminée. Donc quand enfin je le décrocherai, et il n'est évidemment pas question de prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc je cherche ce travail. J'ai mis deux mois à le trouver. Ensuite, je l'exerce jusqu'au moment où on me dit, bah, finalement, vous êtes prise, voilà, on vous signe un contrat définitif. Et donc, le contrat définitif qu'on m'a proposé, le premier qu'on m'a proposé, c'était non pas sur ce ferry, c'était dans une entreprise où je faisais le ménage le soir, et c'était un contrat de 2 heures par jour pendant 5 jours. C'est-à-dire, c'est un contrat qui ne vous permet évidemment pas de manger. Je ne savais même pas que c'était possible. Je pensais, pour moi, un CDI était forcément un contrat de 35 heures, c'est-à-dire un contrat à temps plein qui vous permet de toucher un salaire plein à la fin du mois et donc d'avoir vos comptes sortis du rouge. Et là, c'est des contrats qui ne vous prennent que 2 heures par jour. Donc vous avez intérêt à en aligner un certain nombre si vous voulez, manger à la fin du mois. Donc pour vous donner une idée, j'ai eu jusqu'à 7 employeurs par semaine. Donc vous avez 2 heures le matin, entre 5 et 7, à faire le ménage dans une entreprise. Vous avez entre 4 et 6, encore un autre travail. Le week-end, vous en avez un troisième. Tous les jours, vous allez sur le ferry entre 9h et 11h du soir. Donc vous accumulez des heures comme ça, que vous additionnez les unes aux autres. Et ces semaines où j'avais jusqu'à 7 employeurs, je gagnais 800 euros. Donc ça vous donne une idée du déploiement d'énergie qu'il faut pour gagner finalement moins que le SMIC.
Cette expérience, vous l'avez racontée dans un livre qui s'appelle « Le quai de Ouistreham ». Pourquoi ?
Le but était de faire un livre. Le but était de le raconter. Moi, j'allais dire que c'est mon travail de raconter. C'est l'essence du travail de journaliste, c'est-à-dire d'aller chercher une information et de l'expliquer aux gens. Alors c'était assez intéressant parce que la plupart de mes collègues ou des gens que j'avais mis dans la confidence, hein, j'avais gardé le projet un peu secret, m'avaient dit « mais enfin, faire un travail sur des femmes de ménage dans une petite ville normande, ça n'intéresse personne, donc tu vas faire ça, mais vraiment c'est trop triste, c'est pas intéressant, etc. » Et en fait, d'une part, ce bouquin a eu beaucoup de succès, et je pense qu'on touche là la manière dont nous, on essaye de travailler. Nous, quand je dis « nous », je parle des journalistes, c'est-à-dire que notre métier est aussi celui un peu de passeur, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une réalité qu'on ne veut pas toujours voir, soit parce que les pays sont trop loin, soit parce que voilà, il y va de la misère sociale et qu'on n'a pas forcément envie de la regarder en face tous les jours. Donc, et nous, notre métier, c'est de dire aux gens, si, regardez ça, je vais vous l'expliquer, et de rendre tout à coup n'importe quel sujet le plus intéressant du monde. Et ça c'est vraiment ce qu'on fait. C'est un peu comme un prof ici au lycée. Moi, par exemple, je détestais les maths, sauf l'année où j'ai eu un excellent prof de maths. Et donc, le but d'un journaliste, c'est ça, c'est de rendre tout un coup intéressant une chose à laquelle, a priori, vous ne vous intéresseriez pas.
Et vous avez gardé des liens avec les personnes que vous avez rencontrées ?
Alors, un certain nombre, oui. Et ça s'est fait un peu comme dans ce genre d'expérience, c'est-à-dire que y a des gens avec qui je me suis bien entendue et je suis restée copine avec mes copines, j'allais dire. Et les autres, non. Enfin, les autres, c'est comme toujours.
Emmanuel Carrère, un réalisateur français, a décidé d'adapter ce livre au cinéma avec Juliette Binoche dans le rôle principal. Vous en pensez quoi ?
Vous imaginez, qu'est-ce qu'on pense quand on vous dit que Juliette Binoche va jouer votre rôle ? J'étais très contente et j'aime beaucoup ce que fait Emmanuel Carrère. C'est-à-dire, pour moi, plus qu'un réalisateur, peut-être, c'est d'abord un écrivain et c'est ce que j'aimais chez lui. J'adore ses bouquins et j'étais enthousiaste à l'idée de savoir ce qu'il allait faire de ce livre au cinéma.
Vous avez été associé à ce projet ?
Pas du tout. Je ne le voulais pas. Je ne le souhaitais pas. C'est-à-dire que je pense que quand quelqu'un prend les droits d'un livre, enfin décide de faire ce type d'adaptation, il faut le laisser travailler. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un livre, lui, il fait un film et chacun son travail.
Vous avez envie de renouveler cette expérience ?
D'immersion, vous voulez dire ?
Oui.
Oui, je pense que c'est une vraie expérience et c'est une vraie chance d'arriver au bout de ce genre de projet. C'est-à-dire, quand vous êtes journaliste, essayer une nouvelle technique, c'est toujours un très grand plaisir. Donc oui, bien sûr.
Si je devais vous demander un mot pour qualifier cette expérience.
Un mot ?
Oui.
Oh, c'est pas possible.
C'est possible.
Heureusement, d'une certaine façon.
Bon, pour terminer cette interview, on ne peut éviter. On va faire un lien avec l'actualité en France. Ces derniers mois, depuis l'automne dernier, un mouvement social important est né, c'est les Gilets jaunes. C'est un mouvement qui a beaucoup fait parler de lui et qui a révélé plus clairement une crise sociale et politique profonde. Il a été difficile de comprendre cette révolte, spontanée, nouvelle dans sa façon de faire, de s'organiser. Les médias ont souvent fait appel aux chercheurs, historiens pour interpréter cette révolte et lui donner un sens. Vous-même, vous avez cherché à comprendre et vous avez rédigé dans le journal Le Monde un article en décembre dernier intitulé « Les Gilets jaunes, la révolte des ronds-points ». Pourquoi ce titre ?
Parce que on a d'abord cherché comment appeler le mouvement qu'ils avaient lancé. C'est-à-dire que ce n'était pas une révolution, ça n'était pas une émeute, ça n'était pas une manifestation. Et donc on a choisi ce mot « révolte » qui nous semblait rendre compte de ce qu'ils faisaient. Et les ronds-points, pourquoi ? Parce que ça a été ils ont investi des espaces qui, a priori, dans les villes, servaient à quelque chose, c'est-à-dire à diriger les voitures, à ralentir la circulation, mais qui étaient des espaces vides, des espaces sans vie. Et le fait qu'ils soient sur des ronds-points et que tout à coup, ils prennent possession de ces lieux-là, de ces lieux qui semblaient les plus déserts, c'est-à-dire personne ne s'arrête jamais à un rond-point par définition, c'est vraiment l'endroit où tout le monde circule, ça nous a semblé extrêmement symbolique de ce mouvement-là. C'est-à-dire que c'est là où on ne les attendait pas, c'est prendre possession de lieux et d'une parole qu'on n'a pas vu venir. Et c'est, voilà, et ça nous, le fait que ce soit sur des ronds-points a été quelque chose de très particulier.
Vous êtes allé sur ces ronds-points et vous les avez rencontrés.
Oui, c'est ça. Alors, je ne suis pas la seule. Hein, presque tout le monde... Enfin, presque tous les journaux, et heureusement, on voyait des reporters pour voir un peu ce qui s'y passait. Moi, ce qui m'avait intéressé, donc on fait là un petit peu de lien avec le Quai d'Ouistreham, c'était d'y rester longtemps. C'est-à-dire, moi, j'y suis resté une dizaine de jours, et c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire, ça vous permet de passer au-delà des a priori et de l'idée préconçue qu'on pourrait en avoir. C'est qu'on voit vraiment qui est là, qu'est-ce qu'on y fait. La solidarité, les liens que ça a tissé entre les gens, c'était pour moi, ça a été une expérience très forte.
Est-ce que vous avez rencontré parmi ces Gilets jaunes des personnes qui étaient un peu comme à Ouistreham ?
J'ose pas dire que c'est la majorité, mais en tout cas, c'est la population la plus visible. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui majoritairement travaillent, c'est-à-dire que sur les ronds-points, il n'y a pas peu, ou en tout cas très, très, de façon très, très minoritaire, des personnes qui n'ont absolument aucun travail, qui sont SDF, qui sont en très très grande problèmes sociaux. C'est-à-dire que là, il y a principalement des gens qui travaillent et qui, bien qu'ils travaillent, ne s'en sortent pas. Et c'est vraiment la caractéristique de cette révolte-là, justement. C'est-à-dire que c'est des gens qui se disent, voilà, moi j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai une voiture, et pourtant je n'y arrive pas. Eux-mêmes, ils sont allés d'une espèce de ras-le-bol de ça, de dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment m'en sortir? Puisque je fais tout dans les clous, d'une certaine façon, et malgré tout ça, je ne peux pas. Et la plupart d'entre eux ignoraient que cette situation était répandue. Donc beaucoup se disaient, bon, si je n'y arrive pas malgré tout ça, c'est que je n'en suis pas capable. C'est-à-dire qu'ils rejetaient la faute sur eux. Et le fait de se rencontrer nombreux, de voir que d'autres étaient dans la même situation, c'était comme un soulagement. Et au début de ces ronds-points, il y avait l'impression d'un espèce de groupe de parole où tout le monde disait, ben moi, le 15 du mois, j'ai plus d'argent, moi non plus, comment on fait, etc. Et c'était quelque chose d'assez fort, d'assez émouvant.
Enfin, quel avenir pour ce mouvement? Comment ça va déboucher?
Alors, je n'en sais trop rien. C'est assez difficile à savoir. C'est un mouvement que personne n'avait détecté de cette manière-là. Enfin, tout le monde avait l'impression qu'il y avait en France une grande défiance politique, un problème social évident, etc. Mais l'idée que qu'on pouvait arriver à cette situation, c'est-à-dire un mouvement qui, tous les samedis, se retrouve dans les grandes villes de France, un mouvement qui... au bout de 5 mois, 6 mois, ne s'essouffle toujours pas. Alors même s'ils sont moins nombreux, etc., c'est un mouvement qui perdure. Hein. Tout le monde disait, après Noël, il n'y aura plus rien, ou même au moment de Noël. Et or, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des gens ont réveillonné sur les ronds-points. Donc c'est un mouvement qui perdure, et je pense que c'est un mouvement où un certain nombre de personnes vont abandonner, mais qui va perdurer. C'est-à-dire que ça va rester, je pense, durant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors pas forcément une manifestation tous les samedis, mais je pense que dès qu'il va bouger en France, il va tomber sur des gilets jaunes.
Il est temps pour nous de nous quitter. Merci beaucoup, Madame Aubenas, d'avoir répondu à nos nombreuses questions et ainsi nourri notre réflexion. Pour tous ceux et celles qui veulent approfondir le sujet, nous vous rappelons que votre livre, Le Quai de Ouistreham, bon, il fait plus de 260 pages, mais les grandes vacances approchent. Et les nombreux articles récents parus notamment dans Le Monde sur les gilets jaunes, à chacun de se faire une opinion.